Proverbe, chapitre 30, verset 18-19. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre, que je ne puis comprendre. La première, la trace de l'aigle dans les cieux. La deuxième, la trace du serpent sur le rocher. La troisième, la trace du navire au milieu de la mer. Et la quatrième, et la dernière, la trace de l'homme chez la jeune femme. Amen. Et je vais m'arrêter là-dessus ce matin. Et je voudrais vous amener à réaliser certaines choses très, très, très importantes, encore une fois de plus. Dans ce texte, vous avez certainement remarqué qu'il y a un dénominateur commun. C'est quoi ? Voilà, c'est trace. Et ce mot « trace », on peut le voir sous un autre aspect. C'est également le mot « conduite ». Comment je me conduis ? Ma conduite. Comment je me laisse conduire. C'est également un autre mot, c'est le mot voie, le chemin. Le chemin sur lequel je marche, le chemin que je choisis de prendre. Le chemin que je dois prendre d'ailleurs, et la Bible m'en parle. La première trace, c'est la trace de l'aigle dans les cieux. C'est-à-dire le chemin, la voie, la conduite qu'il va laisser à nos yeux. Au regard de l'Écriture, cet animal, cet oiseau, l'aigle, c'est Dieu qui l'a noté, qui l'a souligné dans sa parole pour nous montrer l'importance de l'enseignement qui s'en dégage. Selon certains textes, et puis de toute façon c'est comme cela qu'il est vu, l'aigle va être considéré comme étant un animal royal, un animal majestueux, un animal rapide, et un animal au regard perçant. Et même l'Éternel qui va rappeler la loi à Israël, donc c'est le livre du Deutéronome, le rappel de la loi, le rappel des principes que Dieu veut voir s'installer dans le cœur de ses enfants. Et dans ce livre du Deutéronome, à un moment donné, l'Éternel, par le moyen du cantique de Moïse, au chapitre 32, va dire ceci, en parlant d'Israël, pareil, verset 11, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Dieu va comparer son action à celle d'un aigle vis-à-vis de son peuple, d'un aigle vis-à-vis de sa couvée, de ses petits. L'aigle va prendre soin de ses petits. À un moment donné, il va même les pousser hors du nid. Parce que si il ne le fait pas, les petits ne sortiront pas d'eux-mêmes du nid. Mais l'aigle va les pousser. Ça paraît dur, mais c'est vital pour les petits aiglons. Et une fois que les petits vont être jetés hors du lit, car l'aigle va mettre son nid sur les hauteurs, les petits tombent. Et le réflexe, c'est de battre des ailes pour essayer à voler, et ils vont y arriver, c'est normal. Seulement, ils sont encore petits, et ils vont se fatiguer assez rapidement, mais c'est là la beauté de la chose, c'est que la maman, l'aigle, va passer en dessous et va les porter pour leur permettre de se reposer un peu, et puis elle repart et les lâche à nouveau. Dieu veut nous marquer. C'est le mot. Il veut laisser une trace dans notre cœur. Par rapport à ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il est capable de faire. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu théologique où l'on comprendrait rien du tout. Ce Dieu se révèle dans son amour, sa majesté, sa souveraineté, sa grandeur, sa beauté, sa sollicitude, le fait qu'il nous entoure de ses bras d'amour, le fait qu'il a décidé de ne pas laisser tomber son Église, il ne le fera jamais, le fait qu'il est rempli d'un amour incommensurable, un amour qui surpasse toute connaissance. Dieu veut marquer notre cœur d'enfant de Dieu. Malgré les années qui passent, attention que mon cœur ne vienne pas s'habituer de ce que Dieu est, de ce que Dieu représente dans sa sainteté. Il faut qu'avec le temps qui passe, mon Dieu, le Dieu de mon salut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit un Dieu que je vais mieux connaître, que je vais apprendre à mieux connaître, avec qui je vais avoir une relation plus profonde. Et l'image de l'aigle est profonde, est vraie. Il y a un rapport entre le caractère de l'aigle et donc celui de Dieu. L'aigle qui laisse une trace dans les cieux. Il y a une relation entre la voix que l'aigle va suivre et le chemin, la voie, la trace que le Seigneur, ou le chemin d'abord, que le Seigneur va emprunter pour laisser une trace. L'histoire de Dieu, pardonnez-moi du peu, parce que la Bible parle de Dieu, du Père, de l'Éternel, du Seigneur Jésus. L'histoire qui nous laisse de sa personne, l'histoire qui nous laisse de sa sainteté, et en même temps la révélation qu'il nous apporte, pour le présent et pour l'avenir, avec lui, parce que sans lui c'est pas possible. Cette relation entre l'aigle dans sa... comme on vient de le lire, dans son action d'amour vis-à-vis de ses petits, des aiglons, de faire de ses aiglons des aigles adultes, forts, capables de suivre le même exemple que papa, maman. Dieu nous laisse un exemple, il nous laisse une trace. Et en définitive, cette relation, elle est étroite. Parce que, on a dit que l'aigle, non seulement il est royal, majestueux, rapide, mais il est également avec un regard perçant. Il a un regard perçant. Il a un regard perçant. Il a un regard qui voit tout. Un aigle, malgré la hauteur qui est la sienne, il arrive à voir un petit mulot dans les moindres détails. Quelle vue ! La relation est parfaite. Notre Dieu nous voit. Moi, j'ai cru pendant des années que, parce que c'était l'enseignement que j'avais reçu dans ma religion, que Dieu ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. Ça vous est arrivé, vous aussi, de croire à un moment donné cela ? J'ai cru. Je dis, c'est pas possible. Surtout aujourd'hui, on est pratiquement 7 milliards sur la Terre. Mais comment Dieu voit tout le monde ? Même moi, ce matin, je ne peux pas voir tout le monde en même temps. Mais lui, il nous voit tous. En même temps, ici à Groyer, à Toulouse, à Albi, à Castres, à Paris, où vous voulez, à New York, même là où il fait nuit, il voit. Nous avons trop l'habitude, c'est d'en arriver à dire Dieu est comme nous. Pas comme nous. Il est au-dessus de nous. Et je dirais que la vue de Dieu est beaucoup plus perçante que celle de l'aigle. Dans le livre de l'Exode, nous avons à un moment donné, au chapitre 3, effectivement, l'appel de Moïse. Dieu va se révéler à lui dans ce buisson qui ne se consume point, qui prend feu et qui ne se consume point. C'est un miracle. Moïse s'en rend compte parce qu'il va détourner sa personne. Il est curieux. C'est quelque chose qui est inhabituel. Bref, Dieu l'appelle. Et à un moment donné, dans l'appel que Dieu lui adresse, Dieu va lui dire, l'Éternel va lui dire, j'ai vu, Exode 3, verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai même entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et il va dire, je connais même ses douleurs. Alors, du ciel, je suis descendu, j'ai diminuer la distance par rapport à cela. Dieu est descendu pour délivrer de la main des Égyptiens ce peuple et le faire monter vers le pays qui est bon, un vaste pays où coule le lait et le miel. Rien n'a changé. Parce que Dieu ne vieillit pas. Dieu ne vieillit absolument, il n'a pas pris une ride. Il est le même. Jésus nous est-il dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, non. J'ai changé. Quand je vois mes photos d'il y a 30 ans en arrière, c'est comme ça, j'ai changé. Pas vous, mais moi, oui. Mais Dieu, non. La photographie que j'ai de Dieu dans sa parole, elle est la même qu'il y a 33 ans en arrière quand je donnais mon cœur à Jésus. Ça n'a pas changé. Et je fais en sorte que moi aussi, je puisse non pas ne pas changer, mais continuer à progresser. Vous aussi ? Amen. Parce que celui qui a planté l'oreille, nous dit le psaume 94, celui qui a planté l'oreille, petite, grande, décollée, recollée, collée, enfin tout ce que vous voulez, peu importe, celui qui a planté l'oreille, les oreilles, n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil. Vous savez que les yeux, c'est formidable, hein ? Tant qu'on voit, on se dit, oh, c'est pas un problème, on s'en rend même pas compte. Moi, quand j'élève mes lunettes, de près, je vois bien. Mais là, je vous vois pas. Alors, quand j'ai le trac, j'enlève les lunettes. Non, je le fais jamais. Mais, ça rend bien service, ces lunettes. Mais vous rendez compte, si j'en avais pas, je pourrais pas conduire, je serais là. La vue, c'est important. Et Dieu a planté l'œil. Parfois, il a des problèmes, il faut des lunettes, parfois, il faut un petit peu l'opérer, des cataractes, et j'en passe. Mais, malgré tout, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'œil. C'est lui qui l'a formé. Et lui qui a formé l'œil, lui qui a donné des oreilles, lui qui a donné... N'est-il pas capable de voir, d'entendre mieux qu'un aigle ? Lui qui a donné cette vue perçante à l'aigle, mais Dieu est au-dessus de sa créature. N'est-il pas capable de voir mieux que cela ? Il laisse une trace pour nous montrer qu'il est toujours à nous regarder dans les moindres détails à chaque seconde de ma vie. Là où vous êtes, il vous voit. Il a laissé une trace parce que, comme l'aigle, parce qu'il a pris un chemin incompréhensible pour le raisonnement humain. C'est le chemin, selon l'épître de Paul aux Philippiens, le chemin de l'humiliation et le chemin de l'abaissement. Ça paraît inconcevable que Jésus se soit humilié lui-même. Philippiens chapitre 2, verset 6. Et pourtant, il l'a fait. Il s'est humilié. Il s'est abaissé. Il ne s'est pas considéré comme égal avec Dieu. Il a pris une forme humaine, une forme de serviteur. Il est venu pour servir et non pour être servi. Il a montré ce que ça voulait dire aimer. Ça voulait dire, eh bien, que prendre soin des uns, des autres. Qu'est-ce que ça voulait dire s'oublier soi-même pour considérer les intérêts des autres au lieu donc effectivement de considérer ses propres intérêts. C'est ce qu'a fait Jésus. Et nous, les hommes, nous croyons, c'est pas normal. Parfois, nous avons plus tendance à considérer notre confort, nos intérêts, plutôt que de faire le contraire par rapport à mon prochain, par rapport à ceux qui m'entourent, par rapport à ceux qui forment l'Église. Dieu nous a laissé une trace, comme l'aigle dans les cieux. Il nous a laissé une trace par l'incarnation de sa personne. On est dans un mois qui fête cette fête de Noël, qui veut dire nativité. J'ai écrit un éditorial pour le mois de décembre. Allez sur le site. Mais j'ai l'impression que même les croyants aujourd'hui sur la terre et en France particulièrement, parce que je ne suis pas dans d'autres pays, mais en France, j'ai l'impression que les croyants, les chrétiens, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas une relation très étroite avec Jésus, hein, mais je parle de ceux qui ont normalement une relation très profonde avec Jésus. J'ai l'impression que ils ont oublié la valeur de Noël. Oublié la valeur de Noël. La valeur de Noël, c'est Jésus. Il s'est fait homme. Il est venu. Il est né. Lui, Dieu qui s'est fait homme. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est une trace. C'est un chemin, c'est une voie. D'ailleurs, qui vont venir de contrées différentes, vont se laisser conduire par une étoile, c'est miraculeux, pour trouver l'endroit où Jésus est né, où le Fils de Dieu est né, où le Christ est né, où celui qui était annoncé prophétiquement est né. Ils ont été conduits pour adorer, pour lui apporter des présents, parce que n'oublions pas que Jésus est roi des rois, seigneur des seigneurs. Il y avait une trace. Et la trace les a conduits à Jésus. Quelle est la trace? Quel est le chemin que je suis? Est-ce celui de la mentalité du monde? Ou est-ce celui de Christ qui est venu parmi les hommes pour sauver les hommes? Cette trace qu'il a laissée est indispensable pour que nous puissions rencontrer Dieu. Elle est indispensable pour que nous puissions le connaître comme un père. J'aime l'expression « père ». L'expression éternelle, c'est l'expression de l'Ancienne Alliance, qui était toujours en relation avec un aspect de guerre quelque part. Mais « père », c'est autre chose, « abba » en hébreu, « papa », « père ». Mon Dieu n'est pas quelqu'un d'abstrait, même si, eh bien, les cieux des cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais il s'est fait, c'est ça son humiliation, quelle trace, quel chemin, il s'est fait homme, il s'est fait petit, il s'est humilié, il est venu pour que nous puissions, nous aussi, le connaître, comme étant celui, eh bien, qui a pu avoir la possibilité et qui a encore la possibilité de nous amener sur le même chemin qu'est le sien. Alléluia. C'est Jean dans son évangile au chapitre 1er et au verset 14. Il va nous dire ceci. Beau verset. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit. Il s'est fait homme. Quelle trace. Et cette période du mois de décembre nous le rappelle. Et on va encore et encore le rappeler. Il est venu. Il est né d'une manière humble, dans une étable. Je préfère mettre une crèche dans une église plutôt qu'un sapin. Jésus est né dans une étable. Relisez bien l'évangile. Il y a des gens qui comprennent rien et qui font des procès pour tout et pour rien. Je suis désolé. Moi, la crèche, elle me rappelle réellement où Jésus est né. C'est écrit. Le reste, c'est du rajout. Jésus est venu. Christ est ainsi appuyé dans son action par cette image de l'aigle. Il est descendu des cieux. Il a choisi de venir comme un homme sans apparence spéciale, mais quelle trace en Christ. Et tous les sens du mot hébreu pour le mot trace, c'est le mot derek. Tous les mots sont exploitables. C'est-à-dire, j'insiste, les traces de son ministère. Et c'est l'apôtre Pierre, quand il va se retrouver dans la maison de Corneille, acte 10, qui va annoncer l'évangile auprès de ce militaire, de ce légionnaire, de cet officier romain, de sa famille. Il va annoncer l'évangile. Acte 10. Et il va dire, mais vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, et Jésus allait de lieu en lieu. Il y avait une trace qui était laissée, il y avait une image forte qui était apportée, un chemin, une voie, quelque chose de tracé par le Père, quelque chose de tracé par Dieu dans sa volonté pour le bonheur des hommes, le salut des hommes. Il allait de lieu en lieu, Jésus. Il ne s'est pas arrêté seulement en Israël, il est même passé par la Samarie. Les Samaritains qui n'étaient pas appréciés des Juifs, et les Juifs qui n'étaient pas appréciés, les Samaritains, malheureusement, ce problème, on le retrouve aujourd'hui dans notre société. Que de bêtises. Que de folies. Mais Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien, pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, qui étaient dans la mort spirituelle, qui était dans le péché, qui était coupé de la grâce de Dieu. Ce chemin a été tracé. La trace de Christ, elle est là. Pierre le rappelle et il dit, il agissait ainsi parce que Dieu était avec lui, le Père était avec lui. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand Jésus, dans cette fameuse synagogue de Nazareth, Luc chapitre 4, cela est relaté dans ce texte, eh bien, va annoncer ce texte, ou du moins souligner ce texte du livre du prophète Ésaïe, il va parler de lui. Il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour donner aux aveugles la possibilité de recouvrer la vue. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui sont captifs. Donner de l'espérance, délivrer ceux qui sont sous l'oppression, il m'a envoyé. Les traces de la croix dans son corps. Luc chapitre 24, versets 39 et 40, Jésus va dire, regardez les traces, les marques que m'ont laissé les clous dans mes mains. Sur mon côté, une lance m'a percé. Regardez, c'est bien moi, c'est moi le Fils de Dieu qui est ressuscité. Il a laissé une trace. Il a laissé une trace. Et je lisais le témoignage d'un enfant qui a vécu quelque chose de fort dans cette révélation que Christ lui a permis de recevoir. Il va dire à son papa, mais papa, Jésus, il va pas dire trace, il va dire Jésus a des marqueurs. Et j'ai aimé cette expression. C'est l'expression d'un enfant. Nous, on est un peu compliqués, les adultes. Mais les enfants, ils sont très simples. Merci Seigneur, il faut être comme eux d'ailleurs. Si notre humanité avait cette mentalité des enfants dans le sens de la simplicité, ça irait mieux. Et cet enfant a dit, Jésus a des marqueurs. Et là, mais comment cet enfant qui a à peine 3 ans peut-il connaître cela? Peut-il parler comme ça? Il a une révélation de Dieu. Il a vu certaines choses. Et son père, qui est pasteur, lui dit, mais c'est pas possible pour dire ça. Et effectivement, les marqueurs, c'est... Et l'enfant va lui dire, mais papa, Jésus, il a des traces dans ses mains. Et ces traces nous rappellent le salut gratuit qui est en lui. Et automatiquement, il y a les traces de son action dans nos vies pour effacer celles, les traces du péché, les traces de l'iniquité, les traces du mensonge, les traces de la rébellion qui entachent notre cœur et notre conscience. Et puis il y a les traces de sa résurrection, les traces de son ascension au jour de la Pentecôte ou juste avant. Une deuxième trace, c'est la trace du chemin, ou le chemin, pardon, la trace ou le chemin du serpent sur le rocher. La trace du serpent sur le rocher, nous dit le texte. Le serpent, ce n'est pas un animal attirant. Hein. Je ne sais pas si vous aimez les serpents, il y en a qui en ont chez eux. Maintenant, vous savez, il n'y a pas que des chiens à la maison, hein, ou des chats. Il y a des tas d'animaux. Et il y en a certains qui aiment les serpents. Moi, j'ai horreur de ça. Vous avez déjà touché un serpent? C'est froid. Il dirait qu'il sort du frigo. C'est un animal au sang froid. J'aime pas les serpents. Le serpent n'est donc pas un animal attirant. Il est frais. Et pourtant, certains lui laissent le champ libre. Et quand je lis cela dans le sens où certains, je parle sur le plan physique, écoutez-moi bien, ne font pas attention. Mon collègue pasteur qui est en Guyane, quand il est arrivé en Guyane, Jacques Rino, il y a quelques années en arrière, il nous raconte que l'un des premiers soirs, quand il est rentré dans sa maison, il n'était pas trop habitué, mais on l'avait quand même mis en garde. Il dit, méfie-toi, parce qu'en plus, il habitait pas loin de la forêt équatoriale, etc. Il dit, méfie-toi, parce que il y a des tas d'animaux un peu dangereux. Il y a des mygales, il y a des serpents. C'est pas les petites araignées que l'on a dans le Tarn. Hein. Alors qu'il est rentré ce soir-là de la réunion, il a entrouvert la porte. Et heureusement qu'il ne l'a pas ouverte entièrement. Vous savez, nous, on ouvre en grand. Lui, il a entrouverte, il est passé, il a allumé. Et au-dessus de la porte, il y avait un serpent, mais alors je ne vous explique pas le morceau, quoi. Alors, il a fait ce qu'il fallait faire, et à partir de ce moment-là, il a été énormément vigilant. Moi, il m'est arrivé une situation un peu analogue, non pas avec un serpent, mais vous savez, quel que soit l'endroit où vous êtes, il faut toujours, surtout à l'étranger, il faut être toujours prudent. Il y a quelques années de ça, alors que j'étais en Guadeloupe, j'assurais, on faisait un tour de rôle avec les collègues pour assurer tout le week-end spirituel, prédication, visite sur l'île de Marie-Galante. Alors quand je vous dis ça, ça vous fait peut-être rêver, mais enfin, j'allais pas à Marie-Galante pour me dorer la pilule. Hein. J'y allais pour faire des visites, j'y allais pour prêcher l'évangile, pour travailler, pour... Voilà. Et puis, dans la maison qui nous était attribuée, elle était en pleine campagne guadeloupéenne, et là-bas, c'est pas des serpents, mais c'est ce qu'on appelle des scolopendres. Et les scolopendres, vous en avez ici en France, mais ils sont tout petits. Par contre, aux Antilles, laissez-moi vous dire que les scolopendres, parfois, ils sont très gros. Et ils ont 2 crochets, s'ils vous les plantent, tant que c'est dans la main, ça va, ça fait très mal, mais il faut surtout pas qu'ils les plantent au niveau de la tête. Parce que ça peut créer, non pas la mort, mais des grosses souffrances, ce qui est arrivé à certains collègues. Et moi, un matin, je me lève, je vais m'habiller pour partir faire quelques visites, j'étais un petit peu en retard et j'ai enfilé ma chemise. Et ma chemise, celle-ci, non. Non, je ne l'ai pas arrachée. Hein. Elle avait une poche. Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai mis ma chemise, je ferme la chemise. D'un seul coup, je sens que dans la poche, il y a quelque chose qui bouge. Et c'était un brave scolopendre. Je vous assure. Ma femme est là pour le confirmer. J'ai battu le record de vitesse de l'enlèvement d'une chemise. Si j'avais calculé, je pense que je pouvais rentrer dans le livre des records. J'ai eu une trouille, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour enlever tous les boutons à une vitesse pareille. C'est pas très agréable. C'est effrayant. Alors on revient au serpent. Il faut prendre des mesures. Il faut être vigilant. Même, je parle du scolopendre toujours, c'est pareil avec certains petits serpents. Dans certaines régions, quand vous mettez les chaussures, il faut prendre la chaussure, il faut la secouer. Moi, après, je faisais tout avec mes habits, les poches, et hop, après. Et oui, il faut être prudent, parce que sinon, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Alors, en France, on n'est pas habitué. Hop, on s'habille, ça va, c'est bon. C'est... Mais quand vous êtes dans certains pays, c'est plus compliqué. Mes frères et sœurs, sans vouloir allonger la prédication, mais c'est important d'établir certaines images fortes. Ça, c'est vrai sur le plan physique. Et maintenant, je parle sur le plan spirituel. Le serpent est effrayant. Et pourtant, certains lui laissent le champ libre sur ce plan spirituel, alors que pourtant, ils sont établis sur le rocher des siècles, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3, que le serpent a séduit Ève par sa ruse. Le serpent est rusé. Et l'animal des champs, qui est le serpent, à ce moment-là, s'est infiltré dans le jardin. Comme au-dessus de cette porte. Parfois, ils sortent même dans certains pays des toilettes. Oui, je ne blague pas. Hein. Donc, là, c'est un peu embêtant. Mais il s'infiltre partout, comme un scolopendre, comme toutes ces bestioles. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, il est écrit « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il pose la question. L'homme n'avait pas veillé pour le garder, le jardin, où Dieu l'avait placé, pour le cultiver, pour le garder. Et le venin du mensonge a atteint Ève, a atteint Adam, qui pourtant, à la base, était établi sur le roc, sur le rocher de la connaissance, de la communion avec Dieu. Un petit péché peut tout détruire. Un peu de levain fait lever la pâte. Une mouche peut infecter l'huile du parfumeur. Des petits renards, je reprends des expressions bibliques, des petits renards peuvent ravager des vignes. Des petites choses, on a l'impression que c'est petit, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Un petit peu dormir, je m'assoupis, je me laisse faire, je fais ceci, c'est pas grave. Oui, mais à un moment donné, eh bien, la disette, malheureusement, eh bien, la misère, elle me surprend sur le plan spirituel. Jésus m'a laissé une trace, c'est lui le rocher sur lequel je dois me tenir et je ne dois pas permettre au serpent d'y laisser une trace. C'est moi qui dois me laisser toucher par la trace du rocher qui est Christ mon sauveur. Amen. L'homme, quand il laisse le péché entrer dans son cœur, il permet au serpent de laisser une trace sur le rocher. Jésus a vaincu le diable. Jésus a écrasé la tête du serpent. Et je suis aujourd'hui plus que vainqueur. Je suis aujourd'hui quelqu'un qui peut dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je suis quelqu'un donc aujourd'hui en Christ qui est capable de dire « Seigneur, je suis assis, je suis là, bien établi sur le rocher des siècles, qui ne branle pas, qui ne bouge pas. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Je passe un peu plus vite et je vais terminer. La trace ou le chemin du navire au milieu de la mer. Les navires sont capables en général de franchir les océans et les tempêtes, n'est-ce pas ? Et ils semblent disparaître dans les flots, puis de réapparaître au sein de creux même de plusieurs mètres. On a vu cela par des reportages ou autres. Mais notons aussi que la mer, elle se referme derrière la trace du bateau, quelle que soit sa grosseur. Même si l'écume va subsister pendant un certain temps, elle va laisser quand même une trace. Elle va donc laisser une trace, pardon. Elle va laisser une voie. Elle va laisser un chemin. Elle va rappeler que le bateau est passé par là. La traversée des mers est semblable à la traversée des épreuves de la vie. Je n'ai pas le temps, c'est tout un sujet, vous relirez le psaume 107. Mais il nous est dit que, des hommes qui étaient là dans une situation compliquée, sur des navires, au milieu de l'abîme, là où soufflait la tempête, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, il ramena le calme, et les ondes se turent, et l'Éternel les conduisit au port désiré. La trace que le Seigneur nous donne de regarder dans les tempêtes de notre vie, dans les tempêtes de la difficulté, dans les épreuves de la vie, c'est la trace qui nous conduit au port. Sans cette trace, je risque de me perdre. C'est lui qui m'a laissé une trace sur cette mer déchaînée qu'est notre monde aujourd'hui. C'est donc lui que je dois suivre, non pas n'importe qui et n'importe quoi, c'est Jésus. Il m'a laissé une trace pour arriver au port désiré. C'est lequel le port désiré? En même temps, il y a l'escale, c'est l'église. Mais je voudrais vous dire que le port désiré, c'est bien l'église. Mais il faut qu'ensuite, j'arrive au port. Et le port, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux. C'est le royaume de lumière. C'est le ciel de gloire. Là où le Seigneur est allé nous préparer une place, afin que là où il y est, nous y soyons aussi. Alléluia. Et puis je termine la trace, et ça sera ma conclusion, très simplement, où le chemin de l'homme chez la jeune fille, ça veut dire quoi? Ça nous parle de l'amour, dans le bon sens du terme. Comment percer le mystère de la naissance de l'amour? Alors certains, aujourd'hui, avec des explications très scientifiques, vont dire c'est le coup de foudre et derrière ils vont mettre plein de choses. Un regard, une manière d'être, la beauté, la manière de parler, la manière d'être. Tout ça peut susciter des tas de réactions chimiques, physiques. Oui, mais si ça s'arrête que là, cet amour-là, il va pas aller loin. Parce qu'à un moment donné, la voix, les réactions, les positions que j'ai au moment où, là, j'agis, je pars, dans 10 ans, ça aura peut-être changé. Et l'amour, qu'est-ce qu'il en restera que descendre? Le véritable amour, il va naître de la bonne manière. Et dans le sens d'une relation qui va naître entre un homme et une femme, sérieusement, selon la sainteté de Dieu, la volonté de Dieu, non pas selon des désirs humains, des pensées humaines, et moi je pense que, et moi, non, arrêtons avec ça. C'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Moi, je vais pas vous expliquer comment il se fait que cet après-midi-là, j'ai croisé une jeune fille dans les couloirs de là où habitait ma mère, parce qu'elle habitait à côté de chez ma mère, c'est celle qui est devenue ma femme. Mais je n'explique pas comment ce jour-là, je suis passé devant elle et que là, mon cœur a fait boum boum. Pourtant, elle n'avait rien pour me plaire. Oh mince, oh, c'est pas bien. Il est vilain. Mais si, vous me connaissez. Je taquine. Elle est là, de toute façon. Elle me connaît. Non, je peux pas l'expliquer. Mais il y a une chose qui est certaine et sûre. C'est que, sans que je le sache, c'est Dieu qui dirigeait toutes choses. Et c'est bien plus tard que je m'en suis rendu compte, parce que Dieu l'a confirmé. Dans mon cœur, dans son cœur, il y a le miracle de Dieu. Et mes parents sont pas arrivés au milieu en disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Non, il y a le plan de Dieu. L'amour est en train de naître. Il y a quelque chose qui vient du Seigneur. Et quand ça vient du Seigneur, nous devons bénir Dieu, parce que ça vient du Seigneur. Et c'est là la question, comment et pourquoi le chemin de l'homme rencontre-t-il celui de la femme au point de les amener à s'unir pour que leur voie qui a été séparée ne devienne plus qu'un seul chemin. Amen. Avec Jésus, une trace. Alors bien sûr, je rajouterai juste ceci. On pourrait parler des heures là-dessus. Attention à bien comprendre la notion des traces. Si l'amour conduit à respecter l'autre, les traces seront bénéfiques pour aujourd'hui et pour toujours. Comme celle du souvenir du berger dans le cœur de la Tsunamite, Cantique des Cantiques, chapitre 3, et beaucoup d'autres chapitres. Vous relirez le livre du Cantique des Cantiques. Par contre, je me permets quand même de rajouter ceci, il faut être complet, s'il y a flirt et tromperie, j'ai bien dit s'il y a flirt, s'il y a tromperie, s'il y a divorce, donc c'est différents stades, les traces seront des séquelles parfois indélébiles dans le cœur de l'un, de l'autre, et s'il y a des enfants. Dans le cœur des enfants, les parents, les familles, les gens de la société, et ce qui fait que notre société part dans tous les sens. Il ne faut pas donc jouer avec les sentiments des autres et dire « je t'aime » quand on ne le pense pas. Je peux lui dire « je t'aime » de l'amour du Seigneur. Mais dans l'idéal, ce chemin mystérieux est celui de l'amour qui conduit à la communion dans le mariage avec au préalable des fiançailles. Ce chemin est aussi celui de toute personne qui s'unit à Christ de la même manière. Et on jouit avec lui de ses soins, de sa communion. Alléluia. Pierre dira, à qui d'autre irions-nous, Seigneur, qu'à toi? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie éternelle, la vie à l'abondance. Tu nous as laissé une trace. C'est à toi que nous nous unissons. Alléluia. C'est à toi et toi seul. Amen. Et ce chemin aura des traces éternelles. Amen. La voie qui conduit à Dieu est claire. Il a laissé une trace, il a laissé des traces à nous de les suivre. J'en ai parlé ce matin, et de ne pas en suivre d'autres, que Dieu soit loué. Je veux te bénir et te rendre grâce, mon Dieu. Je veux t'exprimer ma reconnaissance. Et pendant la suite de ce culte, avec la Sainte Cène, les offrandes, tout ce que nous allons vivre d'ici la fin de ce culte, c'est également avec un cœur qui désire regarder à toi, repenser à ce que tu viens de déposer dans nos cœurs, par rapport à ces différentes traces, ces différents chemins qui viennent de toi et de toi seul. Merci Seigneur de nous enseigner et de nous faire aller de l'avant. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.